Marcel Brun
et Patrick Subreville vous présentent
Les Aventuriers des Lettres.
Bonjour à tous, bonjour Gisèle.
Mais bonjour à tous.
Que nous retrouvons aujourd'hui.
Voilà, nous sommes très, très contents de se retrouver.
Et nous sommes heureux de vous retrouver. Nous avons dans notre studio aujourd'hui deux invités de marque, on va dire. Nous avons donc Monsieur le Président de l'Association d'émulation et d'agriculture de l'Ain. Bonjour Christian.
Bonjour Patrick, voilà, bonjour Gisèle, bonjour Alain.
Et aussi le vice-président et puis le concepteur de cette édition dont nous allons parler, monsieur le président Alain Gros.
Bonjour, bonjour Patrick, bonjour Gisèle,
bonjour
monsieur le président.
Et nous nous retrouvons donc en ce début d'octobre pour fêter bien donc la parution du numéro spécial des Nouvelles Annales de l'Ain 2023. Dans les dates, il y aura beaucoup de 3. Puisque sur la première page, que vous aurez le plaisir, bien sûr, de lire et de relire et d'observer, nous voyons 1873, départ des derniers Prussiens, donc nous aurons des explications là-dessus. 1923, signature du dernier traité de paix, donc s'il y avait de la paix avant, il y avait malheureusement de la guerre. 73, 23, 10 ans plus tard, c'est 1933, hélas pour le monde, c'est une date importante avec la prise de pouvoir d'un certain Adolf Hitler, janvier 1933. Et puis nous sommes en 2023 maintenant, souhaitons que cette série de trois ne conduise pas à la guerre avec les Troyens, et puis etc., n'est-ce pas ? Espérons qu'une nouvelle guerre de Troie n'aura pas lieu. Voilà, merci Gisèle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, Gisèle, aujourd'hui ?
Écoutez, moi je suis très contente d'avoir parcouru un petit peu ce livre.
Oui.
D'ailleurs, il n'est pas paru l'année dernière.
Non, l'an dernier, il n'y a pas eu.
Et pour quelle raison ?
Eh bien, il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses. Et puis, des livres comme ça, ça nécessite...
Il faut préparer, je crois que c'est la préparation qui a été longue.
C'est le trois quarts, là, c'est les trois quarts de l'iceberg qui réapparaissent. C'est un livre qui nécessite, n'est-ce pas, messieurs, beaucoup de temps, beaucoup de visites, d'excursions, de clichés, de photos, de temps, l'imprimeur et tout. La mise en page est très, très longue.
C'est vrai qu'il est très bien illustré, vraiment beaucoup, très, très bien illustré. Il y a des photos superbes.
Beaucoup
d'églises
à ouvrir.
Bravo Alain, parce que c'est vous qui avez fait les photos des vitraux.
Oui.
C'est magnifique. C'est magnifique. Oui, c'est
voilà, beaucoup d'églises à faire ouvrir. Souvent,
voilà.
Elles sont fermées.
Oui, voilà. Ah,
et il faut aller devant le vitrail patriotique, mémoriel. Il faut le trouver.
Moi, je ne connaissais pas tous ces vitraux.
Voilà.
Et c'est une visite extraordinaire.
Voilà. Je vous rassure, les maires des localités...
Les connaissent eux-mêmes ?
Souvent, ne les connaissaient.
Ah,
elles ne les connaissent
voilà.
Absolument pas. C'est leur grande surprise quand je leur montre.
C'est étonnant quand même. Ils ne connaissent pas leur village.
Mais bien entendu.
Donc, nous allons nous éclairer. Et puis, monsieur Christian va donc nous parler un peu. Ben, il a une préface. Qu'est-ce que dans cette préface se trouve comme phrase, comme paragraphe qui attire déjà le lecteur ? Je pense qu'il y a le mot « guerre », hélas.
Oui.
Mais nous rappelons Foch qui disait « au-dessus de la paix, au-dessus de la guerre, hélas, heureusement, il y a la paix ».
Bien, je voudrais d'abord, bonjour, enfin on a déjà dit bonjour, mais je voudrais répondre à Gisèle pour lui dire que la publication d'un ouvrage, c'est comme la naissance d'un enfant.
Ça se prépare longtemps à
l'avance. Un accouchement. Bon, on a pris l'habitude ces dernières années de ne publier que tous les deux ans. Donc il y a eu 2019 Pierre Goujon, 2021 les Annales Générales, 2023. Donc c'est un rythme que l'on a adopté parce que c'est un travail comme...
Colossal.
C'est un travail important et puis il faut essayer d'obtenir la meilleure qualité possible.
Donc on ça nécessite
beaucoup de va-et-vient, de reprises, de travail.
Bon, d'effort.
C'est un gros effort. Alors je veux dire que dans les statuts de la société d'émulation, alors ceux de Thomas Riboud, à l'article 1er figure l'obligation pour la société d'émulation de faire des publications. C'est la première des obligations en fait. Alors à l'époque, c'était les annales qui se publiaient de manière trimestrielle. plus ou moins suivies, mais c'était le but recherché. Alors, c'était des publications qui étaient moins consistantes que les publications que l'on fait aujourd'hui.
Bien évidemment.
Bon, c'était surtout des publications qui donnaient surtout une information sur la vie de la société, des publications usage interne, les comptes rendus des réunions, enfin bon. Donc là, maintenant, ce sont des ouvrages à part entière. Et je pense qu'un ouvrage à part entière, ça nécessite une longue maturation, une longue gestation. Oui. Voilà pourquoi on a mis 2 ans. Bon, 2021, c'est sorti en août, 2023 en août. Bon, bah, c'est le rythme, malheureusement, que l'on suit aujourd'hui. Mais bon, de notre
côté...
Parce
que c'est une somme de travail, quand même.
Bah, c'est une somme de travail, de démarche, c'est de longue haleine.
Alors, vous avez mis combien de temps à faire toutes ces photos ?
Ça prend beaucoup de temps. Et puis, il y a des choses qui n'étaient pas prévues initialement. On s'est rendu compte, par exemple, qu'on n'avait pas assez parlé des femmes, disons-le, dans cet ouvrage. Mmh. Et il y a eu... plusieurs articles. Il y avait déjà un article de Marie-Claude Vandenbosch pour des femmes héroïques, on peut le dire, à Bourg-en-Bresse, en 1870-71. Et puis, j'ai rajouté un certain nombre d'articles sur des femmes de la guerre de 14-18, et dont deux sont mortes d'ailleurs au lendemain de la guerre, de maladie, en soignant des prisonniers français qui revenaient. Elles sont mortes même à l'étranger, disons-le. Donc, vous voyez...
C'est complètement méconnu.
C'est totalement méconnu et c'est regrettable.
Absolument.
Bon, pour répondre à la question sur, l'avant-propos, donc le mot qui revient, c'est que cet ouvrage aurait pu paraître un peu décalé, puisque bon, on s'éloigne du centenaire de la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre. Mais d'un autre côté, il n'est pas tant décalé que ça, parce que le titre est assez heureux quand la paix succède à la guerre.
Oui.
Donc ça peut être prémonitoire. Bon, aujourd'hui, il ne faut pas trop se voiler la face.
On est en guerre. Oui.
Si ce n'est pas tout le monde, c'est une grande partie du monde, du moins l'Occident. Oui. Et donc c'est un peu prémonitoire. On peut espérer que la paix, un jour, succédera à la guerre, aux guerres, parce qu'il y en a plusieurs à différents endroits.
Oui.
Et puis, de notre côté, alors bon, la guerre, le conflit en Ukraine ressemble d'assez près à la Grande Guerre.
Se mettaient dans les tranchées à nouveau.
Il y a un mélange de tout. Et puis, bon, on entend dire que les drones, justement, favorisent cette nouvelle stratégie, tactique plutôt militaire, de guerre de tranchées, parce que ça permet des observations plus aisées.
Et donc ça permet de décider
des offensives, des contre-offensives. Donc c'est un conflit qui ressemble beaucoup. Mais donc ce que je voulais dire dans l'avant-propos, donc c'est que les événements et les héros qui sont évoqués ici, eh bien, sont toujours d'actualité et ils servent d'exemple. Donc c'est bien de les avoir pour la plupart sortis de l'ombre, parce que c'est des personnages qui n'étaient pas très connus, à part des grands spécialistes. Donc c'est bien de les mettre à la disposition de tout le monde. Voilà pourquoi cette préface sur la guerre...
C'est une très belle idée.
Ben voilà.
C'est une très belle idée.
Tout à fait. C'est bien d'en parler. Et donc, nous avons sur la couverture, la première page, une couleur verte. On va dire que c'est la couleur de l'espérance ou de l'espoir. Et quand la paix succède à la guerre, point d'exclamation. Voilà. Et puis un vitrail. Ce vitrail est magnifique. Est-ce que l'on sait d'où il provient, peut-être ?
Oh oui, heureusement, tout de même.
Bon, je ne sais pas.
Nous, on ne sait pas.
Il nous faut des guides.
Vous savez que ce vitrail, on peut le dire tout de suite, qui est à Notre-Dame de Bourg-en-Bresse, la cathédrale, la co-cathédrale du département, qui a le privilège d'avoir deux cathédrales. C'est un département riche. Ce vitrail avait beaucoup choqué les paroissiens dans les années 1950, quand il a été installé.
Pour quelle raison ?
Tout simplement parce qu'il est extrêmement moderne.
Et
les gens ne savent plus lever la tête. Les gens regardent vers leurs pieds, regardent en face d'eux. Ils ne lèvent pas la tête, ils ne voient plus, c'est terrible. Ils ne voient plus les vitraux, ils ne voient plus les façades des maisons, ils ne voient plus que les vitrines. Ouais. Je ne parle pas pour vous, naturellement. Vous ne regardez pas que les robes à la mode, mais, naturellement.
Mais on regarde
c'est
aussi les portables, on regarde aussi malheureusement son portable.
Beaucoup trop, et il faut aussi regarder les scooters qui vous foncent dessus.
C'est ça.
Bon,
oui.
Mais soyons pour une fois...
Revenons à l'église.
Revenons à ce qui est un petit peu plus haut, ces fameux, c'est un vitrail qui avait fait, je n'irai jusqu'à dire scandale, mais qui avait scandalisé tout de même les paroissiens des années 50. La paroisse Notre-Dame, c'était la paroisse mère de Bourg-en-Bresse.
Voilà,
à l'époque, voilà, Sacré-Cœur se voulait un peu plus moderniste,
oui.
etc. Bref, un jour, le curé de Notre-Dame, qui était un chanoine, s'est énervé et a dit aux paroissiens « Écoutez, vous ne les aimez peut-être pas, vous n'aimez peut-être pas le graphisme de ces vitraux, mais les couleurs en sont belles, alors respectez-les et admirez-les. » Et il a eu raison. C'était un curé qui était, ben, qui était à l'heure, et les paroissiens vivaient un petit peu dans le regret des vitraux qui dataient du XVIe siècle, etc.
Mais enfin, on ne pouvait plus
c'est
faire les mêmes vitraux.
Mais c'est un vitrail qui est merveilleux, c'est un vitrail.
C'est le travail du vitrail.
Mais d'une part, et puis, c'est quelqu'un qui fréquentait, on va dire, la nouvelle vague de l'époque, c'est-à-dire qui fréquentait les gens comme Picasso. Etc. C'est,
Qui était d'avant-garde.
Il n'y a pas tellement en France de vitraux, justement, qui sont touchés par ces styles nouveaux, etc. À part si vous prenez
Chagall,
le plateau d'Assy, absolument.
Voilà, c'est ça.
Chagall et quelques-uns, vous voyez.
Oui,
donc on a ce privilège d'avoir ce vitrail, et les gens de Bourg ne le savent même pas.
Moi, j'ai vu les vitraux de Chagall, et j'adore.
Mais c'est merveilleux.
C'est super.
Mais il faut les regarder un moment, s'habituer, découvrir.
Voilà,
c'est un travail intellectuel. Et les gens venant veulent tout sur leur portable, à la seconde même.
Oui, c'est ça.
Et Marie-Claude, donc, a eu la très bonne idée d'expliquer, bien sûr, ce vitrail, de le mettre en valeur, en quelque sorte, en quelques pages. Et elle a très, très bien fait.
Elle a eu raison. Elle a eu raison.
Et c'est un vitrail qui ouvre donc... qui ouvre donc cette édition.
C'est la couverture.
Et il y a au moins il y a 175 pages, c'est ça, en tout.
Oui.
Et il y a bien.
Et combien d'auteurs donc, pour
Il y a bien, il y a bien moins 30 pages avec un ou deux vitraux.
Oui. Il y a 5 auteurs au total, donc
voilà.
Se connaissent tous, qui sont d'ailleurs tous membres
ensemble.
De la société d'émulation.
C'est bien. Oui, oui.
Voilà.
Ah, oui. Oui.
Et donc, je disais, il y a au moins 30 pages qui montrent un, voire surtout deux vitraux. C'est beaucoup.
Oui, alors, justement, on a intercalé, on
voilà.
a montré des vitraux.
Voilà.
Vitrail de Notre-Dame,
voilà.
bien sûr, parce qu'il est essentiel pour comprendre également l'évolution de l'art. L'art ne doit pas rester figé.
Heureusement, d'ailleurs.
Bon. Ça bouge.
Et puis, je voulais insister aussi sur... On va être un petit peu chronologique, puisque on parlait également à un moment donné de ces femmes courageuses, et qu'on parlait de Marie-Claude, je voulais dire quelques mots sur des femmes qui venaient de s'installer à Bourg, qui étaient les Dominicaines.
Voilà.
Dominicaines, oui.
Et les Dominicaines, vous le savez, soignent les malades, les blessés, les gens âgés qui sont parfois malades, dans certains vont dire dans leur âme, d'autres vont dire dans leur esprit, mais elles ont un mérite extraordinaire. On les
c'est
voit
vrai.
Passer
partout
à travers la ville,
à vélo souvent,
c'est
souvent.
Magnifique,
oui,
c'est très beau à voir, ces femmes qui vivent dans un dévouement constant. Et elles ont non seulement le dévouement, mais ça, peu de gens le savent, elles ont eu le courage.
Oui.
Le grand courage, à une époque où, à Bourg, en 1870-71, les Burgiens ne faisaient pas les malins, et on peut les comprendre, ce n'est pas une critique. Les Prussiens approchaient,
oui.
les Prussiens n'étaient pas des gens sympathiques, vous savez. Bon, eh bien, ils ont fusillé beaucoup de civils. Hein. Bon, eh bien... elles ont eu le courage de rester sur place. Quand on leur a demandé d'évacuer, elles étaient stationnées à l'hôtel de Meillonnat, comme on dit maintenant, H2M,
incroyable
acronyme.
Ruthénière.
Eh bien, Ruthénière, elles étaient... Eh bien, elles n'ont jamais voulu partir. Elles ont dit non, nos malades.
En priorité.
Et quand le maire et les autres leur ont dit non, il faut partir, eh bien, elles ont dit non, nous resterons. Et puis, si les Prussiens viennent, eh bien, nous ferons la soupe aux Prussiens, ça les occupera, mais on continuera à soigner les malades. Bel exemple, vous voyez, d'un héroïsme simple. simple.
Oui, c'est
voilà.
vrai.
Sans
oui.
faire
trop d'emphase. Non, mais c'est vrai. Voilà.
De l'emphase ouais, et ouais. tout. Elles ont été extraordinaires. Et c'est presque en contrepoint, un très bel article d'un de nos amis de la Société d'émulation qui a écrit sur la correspondance en ballon d'un Biziati,
mais oui,
un
c'est...
habitant
ah,
de
oui.
Bizia.
Ah oui.
Alors c'est extraordinaire, on a fait cette trouvaille grâce à un collectionneur, mais on en parlera plus tard, mais M. Zagonel,
oui.
qui avait, parmi les nombreuses correspondances qu'il possède, des lettres qui ont voyagé en ballon. C'est quand même pas
c'est
rien.
C'est étonnant, ça, oui. Hein, oui. On les a retrouvés, en plus.
Mais oui, et vous aviez les ballons donc, qui s'envolaient. Alors, on parlait d'illustration. J'avoue que j'étais très content d'avoir retrouvé le monument aux aéronautes, parce que personne ne le connaît. Ben. Et pour cause, il n'existe plus. Les Allemands l'ont fondu en 1941-42. Il était à Paris. Et c'est une œuvre du sculpteur Bartholdi, le grand Frédéric
ah, oui.
Auguste Bartholdi,
Bartholdi
hein, la statue de la liberté, etc.
Le lion de Belfort.
Voilà, et on a ce merveilleux, si vous voulez, ce merveilleux monument, ce merveilleux ballon qui est au-dessus,
oui.
qui s'envole au-dessus de Paris. Évidemment, les Allemands,
H-14.
Ça ne leur plaisait pas, et
oui.
ils l'ont détruit donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais il a été inauguré en 1906, vous voyez. Et là encore, je fais la transition. Vous voyez, avec les lendemains de la guerre s'arrête, mais les œuvres d'art sont nées,
oui.
justement, de la guerre. On a, en quelque sorte, non pas magnifié la guerre, mais magnifié
le courage
les beaux
ça, oui.
actes,
oui, oui,
etc.,
oui, oui,
que ce
oui.
soit la guerre de 70, la guerre de 14-18,
oui.
ou celle,
oui.
un petit peu moins, de 39-45. Vous voyez, il y avait de quoi faire. Et cette correspondance d'un Biziati, on se rend compte que la vie à Paris n'était pas drôle, ça on le sait.
Oui.
On mangeait du rat,
c'est
on
ça,
mangeait
du chat,
c'est meilleur.
Oui, oui.
Ça ressemble beaucoup au lapin. Et puis on a même mangé les éléphants, comme vous le
oui,
savez,
oui,
le
oui.
jardin des plantes.
Jardin des
enfin,
plantes
bon,
oui, oui.
On découvre plein de choses. Et
ben
là,
oui,
effectivement,
mais ils n'avaient rien à manger.
Il y a des photos
donc,
très intéressantes dans cet
ils
article.
Ils étaient obligés de tout dévorer. Hein.
Voilà, l'article de Bernard Béraud, qui est officier de carrière, officier de gendarmerie, qui est quelqu'un de remarquable, qui écrit très très bien et qui a fait de nombreuses découvertes et qui relie notre département également à un autre qui est dans les Vosges, mais on en parlera tout à l'heure.
Voilà, nous avons donc les religieuses, nous parlons des femmes, honneur aux femmes, on va dire aujourd'hui si vous voulez bien. Y a-t-il d'autres personnalités féminines dans cette édition? Oui.
Oui, alors...
Il y a ces infirmières.
Bien sûr, les personnalités féminines, elles ont été souvent un petit peu oubliées.
Bah
oui.
Voilà. Et pourtant...
Je ne suis pas sûr que ce soit volontaire. Il ne faut pas non plus tout le temps critiquer les époques antérieures. Je ne suis pas dans le mouvement du wokisme, je vous rassure. Ces femmes ont été un petit peu oubliées parce qu'il y a eu quand même... on va dire largement 2 millions de morts en 14-18.
Oui,
largement. Ça. On nous raconte qu'il y a eu 1,4 million, 1,5 million, mais c'est absolument faux. Il y a tous ceux qui sont morts dans les 5 ans qui ont suivi. Parce
oui.
que c'est le cas de beaucoup, d'ailleurs, que je cite effectivement dans différents articles. Il y a tous ceux qui sont morts parce qu'ils avaient les poumons gazés, parce qu'ils avaient des blessures graves, parce que, enfin bref, les années qui ont
mais
suivi
la
guerre
de la grève,
ont été
oui.
effroyables. Et ces gens-là, d'ailleurs, ne sont pas sur les monuments aux morts, hein, ne l'oublions pas. Alors, on a un petit peu oublié les femmes qui ont parfois eu un rôle magnifique, un rôle non seulement, je dirais, héroïque,
mais prédominant quand même, parce qu'il fallait soigner les blessés.
Absolument. Et
donc,
elles
c'était
les ont,
indispensable.
Elles les ont souvent aidées moralement.
Voilà, c'est
parce
important.
Parce que c'est dur d'être blessé. Alors, c'est le cas en particulier de trois femmes sur lesquelles on peut un petit peu insister. Y a la première, si vous voulez, c'est une femme qui était au départ une Parisienne. Elle a épousé le président de la Société d'émulation de l'Ain.
Voilà.
C'était une très bonne idée. Il avait, je crois qu'il avait 25-30 ans de plus qu'elle.
Ah,
c'était un monsieur d'un âge qui a été séduit par la beauté de cette femme. Et il l'a épousée, figurez-vous. Mais vraiment, on retrouve, vous savez, à partir du moment où on se passionne pour l'histoire, on se rend compte que tout est lié. Il l'a épousée dans la mairie du 12e arrondissement à Paris. Et vous savez qui était maire du 12e arrondissement, qui était dans la mairie, qui les a mariés? Eh bien, tout simplement, le père de Pierre Goujon.
Ah, d'accord.
Mais oui, il était sénateur de l'Ain et maire du 12e arrondissement. C'est pas mal quand même, vous voyez. C'est tout à fait extraordinaire.
C'est étonnant quand même. Hein,
mais tout à fait. Alors, donc, cette femme qui s'appelait Albertine Ravin est devenue Albertine Chevrier. Et les Chevriers, c'est un nom très connu. Ils ont eu pas mal de morts également pendant la guerre. Et figurez-vous, quand son mari est mort, elle a fait cadeau, et il faut quand même le dire, les gens de la Société d'émulation ont fait beaucoup de cadeaux, elle fait cadeau au musée
Lorrain, c'est ça?
Absolument, le musée Lorrain qui est devenu
le musée de Brou,
le musée de Brou, du sépulcre des Cordeliers, hein, qui c'est quand même extraordinaire, sépulcre du 15e siècle, un sépulcre merveilleux, qui est une des plus belles pièces du musée de Brou.
Ah oui,
vous voyez, elle en a fait cadeau parce que c'était son mari qui était un chercheur, qui était comme nous tous, vous voyez, qui fouillait, etc. Elle en a fait cadeau à la Société d'émulation. De la Société d'émulation, donc au musée de Lorrain, qui est devenu le musée de Brou. Et puis... elle a fait partie d'une association qui s'appelait les Dames françaises. Il y avait trois associations qui ont constitué, si vous voulez, la Croix-Rouge française. Ça s'est fait en 1940, officiellement, la constitution, si vous voulez, de ces trois associations qui sont devenues la Croix-Rouge française. Et donc, cette femme a travaillé pour devenir infirmière. Elle avait le diplôme et quand il y a eu la guerre, elle a été servir comme infirmière dans les hôpitaux de Bourg. Sa fille Louise a fait la même chose. Elle avait le diplôme d'infirmière parce qu'elle savait très bien et tout le monde savait qu'il y aurait la guerre. Et on a trouvé, c'est merveilleux, une photo. Alors ça, c'est grâce à Marie-Claude, c'est elle qui m'a dit « Il existe une carte postale, etc. » Et j'ai fouiné et j'ai retrouvé, en cherchant, effectivement, cette fameuse Louise Chevrier qui est au milieu d'autres demoiselles. Et elle militait, si vous voulez, pour... Ce sont les quêteuses de la petite fleur bleue.
Ah oui.
Elles quêtaient pour pouvoir construire des avions. Des avions qui allaient faire la guerre.
Ah oui, voilà.
Et vous savez que le général Foch, 2 ans plus tôt, a dit « L'aviation, c'est du sport. Ça ne servira à rien pour l'armée. » Eh bien, vous voyez, cette jeune fille clairvoyante quêtait justement pour les avions.
Elle quêtait pour qu'on achète les avions.
Absolument, pour que la France soit mieux armée, etc.
Il y avait beaucoup de manques.
On a eu des femmes extraordinaires à Bourg. Là encore, on ne le sait pas assez.
Heureusement.
Mais oui. Alors, je signale quand même qu'il y a une rue de ces dames chevriers. Une rue, il n'y en a qu'une qui est nommée, mais qui existe depuis longtemps, pas loin du cimetière. Et puis, il y a maintenant une salle, une des grandes salles du lycée Edgar Quinet, comme ce sont des femmes, qui vient d'être nommée, du nom des demoiselles Chevrier, pour rappeler quand même leur héroïsme, car elles sont mortes, l'une en mars et l'autre au mois suivant de 1919, en soignant en Allemagne, à Rastatt, les rapatriés, si vous voulez, prisonniers français qui étaient très à l'est du dispositif allemand. Évidemment, c'est difficile de s'échapper quand vous avez 1000 kilomètres à traverser, bien plus difficile que si vous êtes près de la frontière. Donc, vous voyez, on ne les avait pas complètement oubliés et nous les mettons complètement en valeur, c'est une bonne chose. Et puis, j'ai voulu parler quand même d'Alice Munet. C'est une femme extraordinaire, Alice Munet. On l'a appelée à l'époque l'ange des tirailleurs marocains.
Alors,
Bourg est oublieuse, Belay est oublieuse parce qu'elle est née à Belay, cette jeune fille. N'oubliez pas que nous sommes départementaux, Société d'émulation de l'Ain.
Ah oui.
Nous sommes départementaux depuis 1790 quand même. Bon, et Alice Munet a soigné les blessés. Pareil, elle est d'une famille, son père était magistrat, famille assez aisée, et elle était en très mauvaise santé. Et elle a repris la santé parce que ses parents ont acheté une villa à Menton.
Ah, dans le Midi, d'accord.
Et là, elle voit arriver un train chargé de blessés.
Ah oui.
Elle dit, je vais les soigner, elle a son diplôme, elle les soigne. Et elle voit qu'il y avait parmi eux des tirailleurs. Il y avait quelques Marocains, mais il y avait surtout des Sénégalais. Et elle se dit, mais ces pauvres hommes, eux, non seulement ils ont la douleur physique, mais ils sont éloignés
de
leur pays, loin de tout. Ils ne reçoivent pas de lettres. Ils n'ont pas cette preuve. Et elle a décidé de s'en occuper. Figurez-vous, elle a même fait une chapelle dans la villa, une chapelle dans la citerne de la villa.
Ah, oui.
C'est tout à fait extraordinaire, vous voyez, une fille là encore pleine d'idées, pleine d'initiatives. Elle était toute jeune, elle avait une vingtaine d'années. Mais elle commandait un peu à ses parents. Vous voyez,
c'est pas nouveau,
les femmes qui commandent, là encore.
Elle avait beaucoup de caractère.
Oui, mais du caractère positif en même temps. Et donc, elle les a soignés. Il y en a qui étaient évidemment malades parce qu'ils avaient les poumons malades à cause des gaz. Vous savez que les Allemands ont utilisé contre nous le fameux gaz moutarde, etc., qui tuait les gens à petit feu. Hein. J'ai connu ça dans ma famille, vous savez. Et donc, elle les a soignés et elle a elle-même été malade. Elle a attrapé une maladie contagieuse. À la fin de la guerre, elle a dit « Je ne veux pas abandonner mes Sénégalais ». Et elle est allée vivre au Sénégal pour continuer à soigner les Sénégalais, à leur également leur parler du catéchisme, etc.
Elle a appris la langue.
Et elle est morte. Oui, elle parlait un petit peu la langue, effectivement, principale, on va dire, du Sénégal, que connaît bien notre président, puisqu'il y a vécu également.
Ah.
Et elle a fait un travail merveilleux et elle est morte, donc, de maladie là-bas. Mais sa sœur, dont je parle moins, parce qu'elle est moins, si vous voulez, entreprenante, elle est plus suiveuse, mais elle mérite aussi qu'on en dise un mot.
Elle aussi,
elle est de notre département. Et elle est morte, elle, très âgée. Elle, la plus malade des deux au départ, vous voyez.
Oui, la plus faible, et puis finalement, elle est morte en 73,
c'est cela. Mais oui, c'est-à-dire récemment, c'est vraiment contemporaine.
Bien sûr.
Et Alice, puisque c'est surtout d'elle dont on parle, c'est une fille merveilleuse. Non seulement elle était dévouée, courageuse, etc., mais elle jouait de la harpe, elle écrivait remarquablement bien.
Elle a pris la peinture.
Vous voyez,
elle a
c'était vraiment des gens très, très intéressants qui étaient complètement oubliés à Bourg. Mais je signale quand même qu'il y a une rue à leur nom, à Menton.
Ah,
oui, il fallait parler de ces femmes. Vous voyez.
Mais oui, bien sûr.
Donc, les mettre dans la lumière,
absolument, les mettre
dans
en lumière.
Dans le livre, voilà.
Voilà, oui,
voilà.
Rien que pour ça, on achèterait le livre deux fois, car ce sont vraiment des, et vous, ce sont des trouvailles.
Mais on peut l'offrir parce qu'il est beau.
Ah oui.
Parce qu'il y a un travail de
composition. Mais c'est un beau livre, c'est vrai.
On a, vous savez, c'est un énorme travail, parce que...
Et puis,
il a fallu que... C'est ça qui a été terrible, on parlait des vitraux, c'est que j'en retrouvais régulièrement. Il y a plus de 300 communes dans le département de l'Ain. Donc c'est terrible. Il y a des communes qui vous paraissent pauvres. Vous dites, bon, il n'y a rien d'intéressant en vitrail dans ces communes-là.
Et si ?
Et vous vous rendez compte qu'il y a un beau vitrail qui n'est pas forcément patriotique, mais qui peut être également mémoriel.
C'est ça, voilà.
On parle toujours des vitraux patriotiques, et souvent à tort, là encore, je mets à jour cela, le vitrail patriotique, c'est celui où l'on voit un soldat, effectivement, auquel le Christ vient tendre la main, ou son saint protecteur, etc.
Voilà,
on voit beaucoup Saint François de Sales, par exemple, dans notre département, c'est normal.
Mais
voyez. Mais il y a également, effectivement, des vitraux simplement mémoriels, c'est-à-dire, vous avez des dessins religieux, et en dessous, vous avez le nom de celui qui a été tué. Et c'est dans le cas... J'en ai fait la remarque à notre homologue de la société savante Le Buget à Belley. Je dis, cessez d'appeler le vitrail de la cathédrale vitrail patriotique. Ce n'est pas un vitrail patriotique. Et elle était tout à fait d'accord avec moi, je le précise. Cécile, l'héritier barrière, m'a dit, oui, effectivement, il faut qu'on l'appelle vitrail mémoriel. C'est
mémoriel,
en mémoire de. Voilà. Et on en a quelques-uns sur 1870. Alors que 70-71, nous n'avons pas de vitraux patriotiques dans l'Ain.
Ah oui.
J'en ai mis qu'un, il est à nos portes. Et puis, il faisait partie, si vous voulez, de... vous savez, Bagé était très important et il faisait partie, sur le plan religieux, de Bagé, ce village. C'est Montpont en Bresse.
Ah, Montpont, oui.
Et il y a un beau vitrail patriotique. On voit le saint qui approche de celui qui s'est fait tuer. Et en définitive, ce qui est extraordinaire, c'est que sur la photo, on arrive à voir, à distinguer un peu les traits de cet homme que les gens de Montpont ne peuvent pas voir parce que c'est pas assez net. Mais vous savez, avec les photos, maintenant, on arrive à travailler.
Il y a plus de définition.
Et je vais vous raconter une petite anecdote parce que j'ai beaucoup appris. C'est pour ça, là encore, qu'on passe du temps au cimetière. On m'a dit, voilà la tombe de cet homme. J'ai été voir la tombe, j'ai travaillé un peu, j'ai fait des recherches. Et figurez-vous, j'ai découvert au musée de l'armée que c'est pas du tout sa tombe.
Ah, c'est, bon.
C'est un cénotaphe.
Ah bon ?
C'est en mémoire d'eux. Il est tout simplement, il a été tué à Villers-Exel dans cette bataille qu'on a faite à la frontière suisse, vous voyez, à la fin de 1870. Donc vous voyez, on apprend sans arrêt, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est passionnant.
On va rester donc à l'église, si je puis dire, éclairé par les vitraux, avec un extrait de la messe solennelle de Sainte-Cécile, composée par Gounod. Retrouvons Gisèle et moi en compagnie de Christ Hermillet et Alain Gros à l'occasion de la sortie du numéro spécial des Nouvelles Annales de l'Ain 2023. Héroïsme, personnalité féminine.
Et après, on parle des progrès.
Et après, il y a les progrès de technologie.
Ah, c'est super, il faut parler de ça aussi.
Christian. Que,
voilà.
Bien, alors, dans ce domaine-là, on a un article tout à fait remarquable de notre trésorier, Marc Rochet, l'importance de la TSF.
Alors, c'est ça.
Il évoque toutes les technologies qui sont apparues pendant la Première Guerre mondiale, l'aviation, les blindés, les sous-marins, et c'est surtout la TSF qui a retenu son attention, qui est quand même un moyen de...
Moderne, très moderne.
Moderne de communication qui a changé beaucoup...
les communications,
les techniques de guerre et qui, petit à petit, a fait un peu diminuer le rôle de l'infanterie. Alors oui. qu'encore aujourd'hui, avec les drones, on pense que l'infanterie a repris de l'importance. Mais donc c'est une invention qui a été capitale dans la Première Guerre mondiale. Donc on a un article qui est vraiment très bien documenté parce que c'est un domaine technique, scientifique, et notre trésorier, qui était professeur de physique, était tout à fait bien placé pour écrire cet article qui est vraiment remarquable. Alors si à la place des femmes et les vitraux, Patrick a dit qu'il fallait l'acheter deux fois à cause de cet article qui, quand même, qui fait un point.
Trois fois.
Ça mériterait trois ou six fois. Il y a de l'inflation aujourd'hui. Donc c'est un article transversal, mais qui est particulièrement bien documenté. Enfin, vraiment, c'est quelque chose de remarquable. Bon, je ne veux pas rentrer dans la technique parce que d'abord, je n'en serais peut-être pas forcément bien capable. Et puis en plus, je n'aurais pas allongé notre émission.
Non, mais c'est bien, mais vous pouvez en parler. Hein.
C'est un article qui est vraiment remarquable et qui met à l'honneur le général, je ne sais plus son prénom, Ferrier, qui était à l'origine de la diffusion de cette nouvelle technique dans l'armée française.
Oui.
Voilà pour cet article. Et puis, on a un autre article transversal dont on peut peut-être parler maintenant, c'est celui de Patrick.
Oui, sur parlez-en. Moi, je ne vais pas parler de mes œuvres. Allez-y.
Sur Monseigneur Ginisti, qui s'est vraiment battu pour créer un lieu mémoriel pour tous les soldats tombés au champ d'honneur pendant la Première Guerre mondiale.
Oui.
Et donc, Patrick raconte par le menu l'histoire de ce prélat qui est resté évêque de Verdun pendant près de 30 ans, je crois, pas loin de là, et qui s'est battu pendant des années pour obtenir le principe de la création de cet ossuaire, et puis surtout, le nerf de cette guerre-là, c'est obtenir les financements. Donc c'est un article qui est vraiment très intéressant à lire. C'est vraiment aussi une raison de plus pour s'intéresser à cet ouvrage. Donc, il y a vraiment tout sur Monseigneur Ginisti, depuis sa naissance.
C'est un parcours intéressant du Rouergue, on va dire, puisqu'il était né dans le Rouergue et puis jusqu'à Verdun. C'est un destin vraiment extraordinaire. Et non seulement il y a le côté religieux, mais il s'est transformé, je dirais, presque en homme d'affaires. Il est allé pour ramasser des fonds.
Oui, c'est ça.
Et ramasser des fonds, et puis entraîner les gens, entraîner tout ce monde. Il a compris le sens, pour ceux qui connaissent Verdun, c'est important, tout ce qui a été fait, et il faut voir tout le monde aussi qui chaque année, même si la commémoration du centenaire était un peu terminée, il n'en reste que quand même, Verdun reste d'exemple, encore maintenant, puisqu'on va jusqu'à comparer les combats maintenant en Ukraine, je parle des tranchées.
Les tranchées, c'est ça.
Hier soir, il y avait une émission là-dessus. On se serait cru dans les tranchées à Verdun ou à Douaumont. Ça n'a pas évolué. On retrouve. C'est ça le drame de l'histoire.
On pensait que la guerre serait rapide avec les moyens qui sont...
Eh bien non.
En revient quand même. C'est ça qui est surprenant.
Pour cette ossuaire, les Indinois ne pourront pas s'indigner, si je puis dire, que le nom de Bourg-en-Bresse n'y figure pas.
Oui.
Au Yamacon. Oui. Mais Bourg-en-Bresse n'a pas souscrit pour cette construction.
Mais ils ont de la même. Ils ont offert quand même. Par exemple, ils ont offert une pompe et pas n'importe quelle cité. C'est la cité de Crouy.
Voilà. Oui. Ah oui.
Près de Soissons, où en 1915, beaucoup d'Indunois y sont restés. Fauchés par les balles ou alors noyés par les inondations, morts de froid. Donc, nous, avons une rue de Crouy, comme la rue principale de Crouy, vers Soissons, s'appelle rue du département de l'Ain. Donc, là aussi, le département de l'Ain, il n'y a pas que les sabots et tout. Une fois qu'ils ont cassé leurs sabots, comme disait Napoléon... ils ont le coup de feu peut-être facile, mais ajusté, mais aussi mesuré. Car l'Ain est un pays de nuances et de mesures aussi. Voilà.
Moi, je voulais revenir sur une petite anecdote de la TSF. Oui. Parce que si la Tour Eiffel a été sauvée...
Oui.
Ah, ça, il faut en parler quand même. Parce que c'est grâce à la TSF. Parce, à la TSF, parce qu'il y avait plein de... mais oui, elle devait être détruite.
Il fallait un point culminant.
Voilà.
Oui, mais c'est sûr que ça lui a donné une deuxième chance.
C'est ça, parce qu'elle devait être détruite.
Oui, oui. Bah, prévu, oui, c'était prévu.
Ah, mais oui, parce qu'il y avait plein d'écrivains qui la trouvaient horrible, plus, il fallait la détruire.
C'était un débat, oui.
Donc elle devait être détruite, et du coup, ben, comme il fallait que ce soit élevé, la TSF, et après elle a été conservée, et puis maintenant on est très contents de notre Tour Eiffel.
Non,
mais il fallait quand même cette petite anecdote pour rappeler la TSF.
C'est vrai.
Non, mais c'est vrai.
Moi j'ai trouvé l'anecdote très bien.
Oui.
Donc Verdun va dire à sa place, malheureusement, mais c'est une place que peu de Français connaissent.
Ah oui.
Verdun, bien sûr, c'est les combats, tout le monde connaît, on ne va pas y revenir. Mais les conséquences, la volonté de cet ecclésiastique qui a été saisi de pitié, comme il dit un matin, après l'armistice, donc vers la fin novembre 1918, avec un autre prêtre, il y avait encore les ossements qui restaient depuis tous les combats. Il en reste encore. Il y a quelques années à Verdun, je discutais avec un guide et je lui dis, mais il y en a encore qui... Il me dit, il y en a qui remontent beaucoup en été, par exemple.
On en retrouve régulièrement.
Tous les jours, il en reste peut-être encore. C'était il y a quelques années. On va dire qu'il en reste encore plus la moitié qui dorment encore tranquillement dans la glaise ou dans la terre.
Voilà,
avec les... On parle de Verdun, mais j'ai eu la même réponse quand j'étais au Linge, par exemple, au-dessus d'Orbais, pas loin de Colmar. La même chose, cette tragédie. Donc, ce Mgr Ginestique est assez connu outre-Rhin. Il y a le respect aussi. Beaucoup d'Allemands continuent d'avoir des cars qui vont. Ils vont à Verdun.
Oui.
Ils vont à Verdun. Eux, leur équivalent, c'est une bataille qui est dans la bataille des Flandres, par exemple. Mais c'est beaucoup moins connu. Et puis pour eux, Verdun, ils ont laissé autant de plumes que les Français, d'ailleurs. Ouais. Et ils ne sont pas passés. Donc pour eux, c'est une défaite.
Ah, oui.
Pour eux, c'est une défaite. Ils ne sont pas passés. Nous avons résisté grâce aux poilus.
Voilà.
Grâce aux poilus et aux chefs. Voilà, et au chef. Il y a encore d'autres sujets. Si vous permettez, j'ai parlé du lieutenant-colonel Brouet à Bourg, on a une caserne.
Oui.
Nous avions, puisqu'il reste le terrain, Eugène Brouet, qui était lieutenant-colonel et qui avait commandé le 223e régiment d'infanterie de réserve, après avoir entraîné les réservistes qui arrivaient un petit peu comme ils pouvaient, après avoir passé, on va dire, presque un mois d'entraînement autour du lac du Bourget. Beaucoup ont souffert car il manquait d'équipement et les marches étaient dues de jour comme de nuit. Et donc, beaucoup de ces soldats sont partis au front avec les pieds en sang. Omar en manquait de chaussettes. C'est pas rien, mais il faut marcher.
On n'était pas du tout équipés.
Et les chaussures n'étaient pas faites.
Il y avait un manque d'équipement flagrant.
Et oui, mais c'est pas facile de tout ça. C'est pas facile. On n'était pas prêts, peut-être aussi.
Pas du tout.
Et les pieds de ces soldats qui étaient des réservistes, donc qui n'étaient pas entraînés, du jour au lendemain, il a fallu chausser les chaussures à clous et marcher. Beaucoup ont dû être pas amputés, mais ont été. Sont restés à l'hôpital, n'ont pas vécu le drame qui est arrivé aux autres, puisque le 25 août à Méoncourt, ce 223e régiment d'infanterie a été pas anéanti, presque la moitié de son effectif, avec donc Pierre Goujon, le professeur Paul Truchon, dont parle Alain, le professeur au lycée Lalande, est tué de la même façon que beaucoup, Olivier Marin, et donc le lieutenant-colonel Brouet, qui le matin du 25 août, voyant que rien ne bougeait du côté de la forêt, a décidé d'avoir une fois avoir installé ses hommes planqués, disons, dans le fossé, dans un grand silence inquiétant, et s'est avancé faire la forêt tout seul. Il est arrivé ce qui est arrivé,
la forêt,
il y avait donc, c'était des Bavarois, Oui. C'était des Bavarois qui étaient là depuis un moment, presque qui avaient passé la nuit, et qui n'ont pas manqué le lieutenant-colonel Brouet, qui avait fait déjà une très belle carrière. Donc j'ai retrouvé à Paris son dossier personnel, qui est très intéressant. Comme on dit, il était promis à une belle carrière. Il avait été en Indochine, au Tonkin. Oui. C'était quelqu'un qui pouvait servir aussi bien dans la troupe qu'à l'état-major. Et donc, après la guerre, la première guerre, il a été décidé de donner le nom lieutenant-colonel Brouet.
Voilà. Brouet. À une caserne.
Une caserne.
Caserne, oui.
Maintenant, elle est toujours là. C'est un autre volet. Et puis donc, il était bon quand même d'éclairer cet officier supérieur qui a fait beaucoup et qui est mort et qui a été tué à la tête de ses troupes.
Avec de nombreux Bressans.
Avec de nombreux Bressans.
Tu as raison de dire, c'est surtout des Bressans, gens de Bresse qui sont Bressans, morts, voilà. Quelques bugistes, mais surtout là, le 223, essentiellement, voilà. des gens de la région de Bourg-en-Bresse. Et c'était une bataille terrible. Et en même temps, on a appliqué la doctrine de Joffre. C'était l'attaque à tout prix.
Oui,
les Allemands ne se montrent pas, on attaque. Et évidemment, c'est ce qu'il ne fallait pas faire.
Pas faire.
Ils étaient cachés dans le bois, ils ont descendu
et
les
puis
Français.
Ils étaient surarmés par rapport aux Français.
En plus, mais je dirais que ce n'est pas le pire. Parce que quand vous êtes dans des tranchées, mais là, véritablement, on est allé sans les voir et eux nous voyaient. Donc, c'est pour ça qu'on a un homme presque génial, comme Pierre Goujon. C'est comme un grand bonhomme, Pierre Goujon. On a écrit sur lui, n'est-ce pas, Patrick? Eh bien, sont morts l'arrière-grand-père, effectivement, d'Olivier Marin, tu l'as rappelé, ce professeur agrégé du lycée Lalande également, etc. Un grand nombre d'hommes de valeur sont morts un petit peu bêtement, parce que la doctrine, vous savez, que ce soit sur le plan militaire ou le plan civil, les doctrines sont souvent dangereuses.
Oui, c'est ça.
C'était l'offensive à outrance.
À outrance.
Sans préparation.
Voilà.
Sans aucune préparation.
Sans préparation d'artillerie, on va dire.
Rien du tout.
Absolument.
Et en pantalon rouge.
Ah oui, en plus. On les voyait de loin, voilà.
Ces pantalons qui étaient rougis en Allemagne.
Ah ben on les voyait bien.
Qui étaient rougis en Allemagne, chez Beda SS.
C'est terrible.
Voilà. En 70, il y avait déjà ces pantalons rouges. Ouais. Et un certain Edgar Quinet était, quand il est rentré d'exil en 71, il est allé au ministère, il est allé protester et demander si on ne pouvait pas, comme étaient les Prussiens en bleu foncé, on pouvait changer cette couleur qui était trop voyante. On l'a renvoyé à ses chars d'études. Et c'était en 71, car quelqu'un avait dit, n'oubliez pas que le rouge, c'est la France, avait dit le ministre Étienne.
Oui.
Et ce n'est que Messimy qui est arrivé, mais trop tard, en 1915.
Bien sûr. Plus tard, oui.
En 15, mais c'était trop tard.
Mais
C'était trop tard. Il y a aussi quelque chose qui me tenait à cœur, c'est ce retour des corps.
Oui,
grâce à une... dans ma famille, on m'avait raconté cette histoire, le retour des corps du petit Étienne.
Ah, il faut la raconter, cette histoire.
Dans une histoire merveilleuse.
Oh, mais oui.
Dans un village. Alors, racontez-la.
Il ne peut pas le dire lui-même.
Allez-y.
C'est magnifique. C'est superbe, cette histoire.
C'était le retour des corps.
C'est un véritable poème.
Un petit garçon, ce petit garçon, petit Étienne, qu'on n'a pas réquisitionné presque, et qui va assister à la cérémonie religieuse du retour des corps. Car ça a été permis après 1919, 1920, même bien plus tard.
23,
les familles avaient le choix, et là je peux parler, sachant dans ma famille, mon grand-père maternel, ayant été tué le 30 avril 1918, il a été mortellement blessé et il a été récupéré par des Écossais. C'est pour ça qu'il a été enterré dans un cimetière militaire britannique. Il y a 400 stèles britanniques et il y a une cinquantaine de croix françaises. Voilà. Et donc, la cour d'Angleterre avait écrit à ma grand-mère, lui disant, vous pouvez choisir où vous le rapatriez chez vous. c'est-à-dire dans les Pyrénées pratiquement, ou alors il reste chez nous et il sera gardé par la cour d'Angleterre. Et ma grand-mère a dit, je préfère qu'il reste avec ses camarades de combat, on va dire comme ceci.
Oui.
Et donc, plus tard, dans la région, et puis un peu partout en France, des familles, au contraire, ont voulu que le corps leur soit rendu.
Restitué,
oui, voilà. Oui. Et c'était des grandes cérémonies. Et ma mère, qui était toute petite, plus tard, en tant que pupille de la nation, assistait au retour des corps. Et donc, on allait à la gare. Il y avait un wagon spécial et puis il y avait tout un cérémonial et c'est un peu la cérémonie que je décris avec le retour, avec les enfants des écoles, les glas, etc., etc.
C'est très poignant.
Et c'est poignant et elle, ça lui faisait peur et elle s'en rappelait encore de son vivant. Elle se rappelait des cérémonies, même d'un chien une fois qui faisait partie du défilé. Puisque son maître avait été tué et le chien avait hurlé à la mort, finalement, dès le jour où il avait senti que son maître venait d'être tué. C'était le chien de Cyprien, voilà. C'est un ami de mon grand-père, Cyprien Sigur. Et alors là, c'est Étienne Hoth qui, un beau jour, dit à sa maman que c'est trop triste, il n'en peut plus. Il ne peut plus assister à cette cérémonie, de voir...
C'est trop lourd pour lui,
ça se répète... Et alors la maman, avec beaucoup de tact, beaucoup de tendresse, on va dire aussi beaucoup d'amour en même temps, lui explique sa petite mission vis-à-vis de ceux qui sont partis, vis-à-vis de la famille, de ceux qui restent.
Et pour réconforter, voilà.
Il faut réconforter, puis c'est la jeunesse qui est là, c'est un espoir que le temps passera aussi. On ne sait pas ce que l'avenir réserve. Et à la fin, finalement, le prêtre vient le chercher pour lui redemander encore de remplir la mission. Et malgré tous les larmes qu'il a versées, en se souvenant de ce que sa mère lui a dit gentiment, tendrement le soir, il répond à l'appel, on va dire, et il repart accueillir un énième convoi. Et c'est des souvenirs personnels que j'avais et que j'avais trouvé aussi dans une revue qui s'appelle la Revue du Comminges. En Ariège, il y a eu beaucoup de textes comme ça là-dessus. Et Étienne Hoth, c'était quelque chose qui était resté après. Et pour dire
vous dites pourquoi Étienne Hoth?
Petit Étienne.
C'est sa maman qui l'appelait Étienne Hoth.
Oui.
Voilà.
Mais ce que je voulais dire, que c'était devenu un exemple pour plus tard.
Oui.
Et on disait aux enfants, tu as fait ton Étienne Hoth, c'est-à-dire, tu as été courageux, tu as bien travaillé à l'école, tu t'es bien comporté, tu t'es bien conduit. Voilà. Donc ça, c'est... c'est cette époque difficile. Les armes s'étaient tues, mais le reste que l'on ne voit pas était toujours existant. Voilà. Donc ça fait quand même beaucoup de choses, beaucoup d'anecdotes. C'est la petite histoire, dirait le nôtre. Il y a de l'héroïsme. On a parlé d'héroïsme. On a parlé de progrès technologique.
Mais oui.
Les femmes ont été à l'honneur, personnalité féminine. Et puis ces œuvres d'art qui sont nées de la Grande Guerre. On pourrait croire que la Grande Guerre, grâce à la Grande Guerre, il y a ceci, il y a cela. Mais n'oublions pas, comme disait Héraclite, qui est mort il y a 2000 ans, on va dire, Héraclite, philosophe grec, disait que malheureusement, la guerre enfante tout.
Oui.
La guerre enfante tout. Donc, ça se retrouve dans la vie, dans toutes les couches de la société, finalement dans l'histoire, malheureusement. Et depuis février 2022, Héraclite, de temps en temps, il vient nous rendre visite. Hélas, trois fois hélas, comme disait quelqu'un d'autre. Mais c'est ainsi. Alain, tu as dans une postface aussi fait le bilan un peu de cette histoire. Dans ta postface, qui est très, très fournie. C'est une réflexion moderne, je dirais, sur la guerre, les guerres, etc. Tout ce que tu as dit.
C'est une réflexion parce que...
L'histoire.
Les guerres, il faut savoir les finir. Et là encore, on parle de l'actualité. Il y a bien un moment où il va falloir finir cette guerre entre la Russie et l'Ukraine,
oui,
qui fait beaucoup de morts, beaucoup de malheurs, qui ébranle le monde. Ce qui se passe en Afrique est terrible en ce moment, etc. Et vous voyez, la guerre de 14-18, on a eu de la difficulté à la finir. Je ne parle pas de la fin, oui, l'armistice, où là, vraiment, la France, épaulée d'ailleurs par les États-Unis d'Amérique, a vraiment nettement gagné la guerre. Là, les Allemands étaient à bout de souffle. Je vous rappelle quand même que c'est un général Bressan, je ne vous l'apprends pas, vous qui m'écoutez,
oui,
c'est un général Bressan qui a reçu les plénipotentiaires allemands, oui, et qui les a reçus avec une intelligence, il les
finesse,
a reçus,
oui,
avec une finesse. Ah, les pauvres, ils sont arrivés battus en quelque sorte complètement. Ah, il leur a offert un excellent repas s'excusant en disant « Je suis désolé, je vous ai servi le repas du poilu, on ne vous attendait pas à ce moment-là. » Et les Allemands, mais étaient eux qui crevaient de faim en face, ils en étaient malades. Ça les a mis en condition, vous voyez, la guerre psychologique, on n'a pas attendu, la Russie et l'Ukraine, et M. Poutine, notre cher général Debeney, qui a une rue à Bourg, avait très bien compris. Alors, oui, j'ai voulu montrer qu'il fallait savoir faire la paix. Alors, premier anniversaire, eh bien, écoutez, la paix en 1871, on a quand même su la faire, je dirais, pas si mal que ça, après les défaites qu'on a subies.
Ah ben là, une belle calotte.
Défaite épouvantable, Napoléon III a fait une guerre idiote. Bon,
ben oui,
passons. Mais on a su faire, et en 7 ans, là encore, en 73, il y a donc exactement 150 ans, l'été, et c'était la même période de l'année, c'était en septembre, vous voyez, on est tout début octobre, que les Prussiens ont quitté les dernières villes, et en particulier Verdun, ont quitté le territoire français.
La ville de Charmes.
Plus tôt, absolument, et la ville de Charmes. Et ils l'ont quitté plus tôt que prévu. Parce que la France a payé sa dette plus tôt que prévu.
Et quelle dette,
voilà.
Et quelle dette,
c'est une dette absolument énorme. On est là parce que les Français adorent, vous savez, faire dans le masochisme. Oui, on n'est pas bien. On a trop demandé à l'Allemagne en 18-19.
Oui, oui.
Tiens donc, mais ils nous ont demandé énormément en 70-71.
Oui.
Les Français se sont saignés littéralement.
Tout payé.
Mais ils ont payé, ils ont libéré le territoire, etc. Et puis, du coup, on a pu reconstruire. Et quelle reconstruction, vous comprenez ? La période, c'est pas pour rien qu'on appelle ça la belle époque. Certes, les gens vivaient pas dans l'abondance, on le sait, mais c'est quand même une époque où la France s'est construite, vous comprenez ?
Mais
la
France
moderne, etc. Et puis, ce second anniversaire, 23, il y a beaucoup de gens, ça leur dit rien. Eh bien, le 23, figurez-vous, c'est le dernier traité de la guerre de 14-18.
Ah oui.
C'est le fameux traité de Lausanne.
Lausanne.
Car il y avait eu le traité de Sèvres, effectivement, là encore, à la fin de l'été de 1920. Mais ça ne marchait pas du tout. On avait trop humilié. C'est pour ça que je disais, il faut savoir finir une guerre. On avait trop humilié la Turquie. Trop. On lui enlevait tout. Et du coup, il y a eu le fameux Mustafa Kemal, qui est un homme remarquablement intelligent, qui a inventé la laïcité turque, je vous le rappelle.
Lui,
contrairement à ce qui se passe en ce moment. Là encore, on est dans l'actualité, vous savez. Et donc, on a fait un traité. Et quand je dis « on », ce n'est pas seulement sur la volonté des Turcs, c'est aussi sur la volonté française. Parce que le traité de Sèvres, c'était vraiment un traité très anglo-saxon. Les Anglais voulaient posséder le Moyen-Orient.
Comme toujours.
Comme toujours, mais ne le disons pas trop. Les Anglais et ensuite les Américains,
bien sûr.
Hein. Et donc, les Français se sont dit « non, c'est très déséquilibré ». Et n'oubliez pas qu'on avait quelque chose à dire, car nous avions le mandat sur la Syrie. Et la Syrie a une très... Là encore, on en parle. La Syrie a une très longue frontière avec, au sud, si vous voulez.
On retrouve l'histoire. On retrouve l'histoire.
De ce pays. Alors, vous voyez, il fallait vraiment parler de ce traité qui a remis un peu les choses en place et qui a permis une paix assez durable avec la Turquie, etc.
Voilà, merci. Christian, le mot de la fin. Et puis, Attignat aussi.
Ah oui, il faut parler d'Artigna, bien sûr.
Artigna, pas Morne-Plaine, non, mais enfin, voilà.
Le mot de la fin, donc, c'est un ouvrage qui a vraiment un grand intérêt et que j'incite vraiment à la fois les membres de la Société d'émulation et tout un large public intéressé par ces questions à se le procurer. Donc, on va le mettre en dépôt dans des lieux destinés, des librairies de tout le département, puisqu'on est une association, enfin une société qui est une association à vocation départementale.
Oui.
Donc ça va être fait dans les prochaines semaines. Et puis, on a ce salon du livre d'Attigna dimanche prochain,
voilà.
8 octobre. Donc,
et vous serez présent.
Ah ben oui. C'est une guerre, une bataille
comme toujours.
Et voilà.
Là, c'est la bataille pour essayer de le vendre, parce que le but d'un ouvrage, c'est pas de rester dans des cartons.
Bien sûr.
C'est d'être distribué.
Non, puis donc, sincèrement, il vaut le coup quand même.
Je voulais dire que cet ouvrage coïncide avec un événement qui est quand même assez important pour la Société d'émulation, parce que depuis 2020, la Société d'émulation est propriétaire de la maison du Vieux-Bourg.
Oh mon Dieu.
Et donc, l'an dernier, en décembre 2022, la maison du Vieux-Bourg a été inscrite au titre des monuments historiques. Et donc, va s'ouvrir maintenant une période, alors on ne peut pas dire de restauration, parce qu'elle a été restaurée dans les années 70-75 par monsieur et madame Louis. Mais on va essayer de remettre à jour, il y a un terme anglais qu'on utilise, enfin un reloucage de la restauration pour tirer profit aussi des évolutions techniques, la rendre plus lisible, parce qu'on a un éclairage qui aveugle, aveugle.
Oui.
Et puis bon, faire des choses qui s'imposent, la sécurité, l'électricité.
Problème de sécurité aussi.
Donc, Attigna, dimanche
8.
Au château de Salvaire, à côté du château de Salvaire,
espace
Salvaire, ce dimanche-là. Nous vous attendons nombreux. Et merci pour votre écoute. Merci à Jimmy qui était aux commandes. Merci toujours. Merci Gisèle.
Merci à tout le monde.
Qui a les couleurs d'un vitrail aussi ce matin, bien sûr. Et pour finir, nous allons partir au stand de la Marche Lorraine. Merci à tous. Au revoir.
Au revoir.